on va faire évoluer certains jobs et pas les remplacer. Par contre, oui, il y aura des jobs qui vont disparaître, clairement. Et dans le monde de la formation aussi, il y aura des jobs qui vont disparaître pour en voir d'autres nouveaux créés. Il y a encore des entreprises aujourd'hui, de moins en moins, mais il y en a encore, qui se disent « Ok, tel salarié est manager, on va le former au management. Par contre, tel salarié qui n'est pas manager n'a pas le droit de se former au management. » Voilà, c'est assez réducteur, mais ça l'est encore plus qu'on le pense dans les entreprises.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Après des études de communication à l'ISCOM et à l'ESC, il commence sa vie professionnelle comme Digital Learning Manager. Il se lance par la suite dans l'entrepreneuriat en créant Edflex, avec pour vision d'accompagner les entreprises vers le futur de la formation pour leurs employés. Salut Clément, comment vas-tu ?
Salut Paul, ça va très bien.
On est hyper content de t'accueillir à ce micro. Je crois qu'aujourd'hui, on va parler du futur de la formation, du futur de l'éducation, comment on se forme tout au long de sa vie. D'ailleurs, est-ce que c'est important ou pas de se former tout au long de sa vie ? Pour entrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est Edflex ?
Ouais, bien sûr. Merci Arthur pour l'invitation. Edflex, c'est une société qu'on a créée il y a maintenant 7 ans. L'objectif d'Edflex, c'est vraiment d'accompagner les entreprises en leur proposant les meilleurs contenus pour former leurs salariés. C'est-à-dire qu'on propose une solution, et j'aime bien la décrire d'une manière assez simple, un peu comme Spotify l'a fait pour le monde de la musique, en agrégeant les meilleures musiques, les meilleurs podcasteurs, bref, tous les meilleurs artistes au même endroit avec un seul abonnement. C'est hyper intuitif. Ben, on essaie de faire la même chose pour le monde de la formation. Aujourd'hui, quand on est un service formation, on a accès à beaucoup d'éditeurs, beaucoup de contenus. Les salariés aussi ont accès à beaucoup de contenus, et on veut créer une plateforme qui centralise l'accès à tout ce qu'il y a de meilleur avec un seul abonnement pour l'entreprise pour former l'ensemble des salariés.
Pourquoi pour une entreprise c'est important aujourd'hui de former ses salariés et pourquoi c'est important de se former tout au long de sa vie ?
C'est hyper important parce que on voit qu'aujourd'hui les compétences évoluent beaucoup plus rapidement qu'à une certaine époque. L'OCDE nous dit que dans les années 80, quand on avait une compétence, elle avait une durée de vie d'un peu plus de 30 ans. Et on le voit, un diplôme pouvait suffire, une compétence sur un métier pouvait suffire. Là où aujourd'hui, en 2023, l'OCDE nous dit que c'est 18 mois la durée de vie d'une compétence. Donc, quand on est dans une entreprise, il faut qu'on soit formé au quotidien, il faut qu'on ait l'habitude de se former aussi par soi-même pour monter en compétence. Et un exemple peut-être assez concret, c'est l'intelligence artificielle qui sera demain un sujet essentiel si ça l'est déjà dans l'entreprise. Il faut être aux aguets pour trouver les bonnes formations et se former à ces nouvelles compétences dans notre quotidien de travail.
Justement, est-ce qu'il y a eu des grands changements technologiques et qui ont impacté comme ça le besoin de se former ? Je pense que l'intelligence artificielle est un bon exemple, mais est-ce qu'il y en a eu quelques autres avant où l'intelligence artificielle est vraiment un gros boom ?
Non, il y a eu plusieurs évolutions dans le monde, notamment du travail et de la formation. Il y a eu l'arrivée d'Internet dans les années 2000 où on a pu voir que les métiers ont changé, des nouveaux métiers se sont créés, on s'est formé sur d'autres sujets. Donc ça a été le premier boom. Le deuxième, c'est en effet l'essor de l'intelligence artificielle. Moi, j'aime bien dire que il y a eu Internet en termes de révolution, et la deuxième révolution qui arrive là sur ce 21e siècle, c'est l'intelligence artificielle, qui sera certainement encore plus puissante en termes de révolution des métiers, des compétences, et qui doit nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire demain, quel métier on envisage potentiellement et comment on va se former au final sur toutes ces technologies.
Et du coup, aujourd'hui, comment quelle formation tu proposes aux entreprises et qu'est-ce qui intéresse les entreprises sur ce sujet-ci en matière de formation ?
Ouais, alors nous, on propose chez Edflex 230 thématiques de formation. En bref, on couvre 95% des besoins. Ça va des choses très basiques, je vais les appeler comme ça, comme manager à distance, travailler en mode collaboratif à distance, le management, la bureautique, les technologies, bref, on forme sur plein de sujets. Et sur l'intelligence artificielle, on a aussi du contenu. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, au final, il y a une révolution dans la formation qui s'opère aussi, puisque ces contenus sur l'intelligence artificielle sont beaucoup plus à jour, sont beaucoup plus frais, entre guillemets, quand on va les chercher sur Internet. Et le formateur tel qu'on le connaissait avant, s'il fait une formation sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT, sur les prompts, Le problème qu'il a, c'est qu'un mois plus tard, elle n'est plus à jour. Et Internet offre l'opportunité d'avoir des bons contenus. Donc nous, on va chercher tout ce qu'il y a de meilleur. On a les bons YouTubeurs qui parlent sur le sujet.
C'est pas vous, en fait, qui faites les formations. C'est plutôt des, justement, tu l'as cité, des YouTubeurs ou alors des partenaires qui font des formations et vous, vous les distribuez.
Exactement. En fait, nous, on va chercher tout ce qu'il y a de meilleur. Et tout notre discours, hein, toute l'idée de la création Netflix, c'est de se dire qu'au final, ça sert à rien de recréer ce qui existe déjà. Beaucoup de personnes parlent sur des sujets, sont des experts, mettent à disposition le contenu. Bah, on le voit avec par exemple, votre podcast. Aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup de choses à travers ce format qu'est le podcast. Bah, c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Et nous, on va chercher tout ce qui est de meilleur, on l'agrège et on essaie d'en faire un accès simple pour les salariés, en tout cas aujourd'hui, d'entreprise.
Aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, c'est quoi le type de besoin en termes de formation? Quel contenu tu constates être le plus regardé, le plus écouté?
Quel contenu est le plus écouté? On a, alors je pourrais vous repartager les noms, pas mal de youtubeurs qui parlent sur le sujet en français, mais surtout en anglais. J'ai pas les noms en tête pour être totalement transparent.
Mais c'est plutôt apprendre à savoir faire un prompt. Qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle? Comment mettre l'intelligence artificielle au service de tel métier? C'est...
Ouais, bah tu vois, là, on a par exemple sorti toute une sélection des meilleures ressources sur le sujet. Ça va de comment apprivoiser ChatGPT. Donc, comment faire des prompts, les 10 techniques, jusqu'à les bases de l'intelligence artificielle dans sa globalité. Donc, on retrouve des contenus comme ça. On parlait de YouTubeurs. On peut aussi préciser que sur LinkedIn, il y a beaucoup d'influenceurs, de top voices, comme les appelle LinkedIn, qui parlent sur ces sujets. Donc, si on suit les bonnes personnes, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, hein, sur le web de manière générale, on peut se former au final au quotidien assez facilement.
Est-ce que tu penses que les entreprises, est-ce que tu ressens que les entreprises sont déjà bien conscientes de ces besoins-là, ou est-ce que vous également, vous avez un besoin d'éduquer ces entreprises, ou même est-ce que selon les typologies, il y a différentes approches sur ce sujet de la formation?
Ouais, en fait, le vrai sujet, et qui a été, si on revient un petit peu en arrière au début de l'histoire d'Netflix, a été d'évangéliser, démocratiser le fait que sur Internet, on peut se former. Et aujourd'hui, encore plus les nouvelles générations, je pense, nous trois ici, on va se former plus sur YouTube qu'en attendant une formation quand on est salarié d'une entreprise. Donc de 2016 à 2020, nous, on a lancé Netflix, on s'est bien développé, mais avec un rythme de croissance, on va dire, assez classique et pas en mode start-up, scale-up. Pourquoi? Parce que dans les entreprises, quand on allait les voir et qu'on leur poussait le message de « vous pouvez former avec les meilleurs contenus qui existent déjà, des vidéos, des podcasts, des articles, des cours en ligne », on nous mettait souvent l'objection de « non, ça, c'est pas de la formation ». Non, nos salariés vont pas aller sur YouTube pour se former. Et donc, heureusement, j'ai envie de le dire pour le monde de la formation, le Covid est passé par là. J'insiste sur le monde de la formation. Le Covid a transformé vraiment le monde de la formation. Et ce qui se dit dans les conférences, quand on échange avec pas mal de boîtes de l'écosystème, c'est que le Covid a eu un effet qui a permis d'accélérer 10 ans la transformation des entreprises.
D'accord.
Je sais pas si vous aviez déjà entendu ça, mais dans les entreprises, il y a eu pendant un moment des chief digital officers. Ils n'existent plus, ces personnes. En tout cas, ils étaient au board pendant un moment, dans les comités de direction. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, c'est le Covid qui a réussi à vraiment transformer de manière assez extraordinaire l'accès à la formation, l'accès au digital et à transformer au final le mode de pensée des équipes formation, des équipes RH. Et donc de 2020 à 2023 aujourd'hui, on voit que ça y est, ça commence à prendre dans les entreprises. On a pris conscience que les salariés se formaient différemment et qu'il fallait les écouter. Parce que, et je terminerai sur ça pour cette question, on a un chiffre qui le montre, c'est que 71% des salariés, c'est un baromètre nous qu'on sort chaque année, déclarent qu'ils se forment par eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont sur Google plutôt que d'aller voir un service de formation. Donc il faut leur mettre les bons contenus pour qu'ils reviennent dans l'écosystème de l'entreprise.
Pourquoi faut former les salariés? Pourquoi les salariés ont besoin de se former? Tu vois, quand tu sors d'école, souvent on te dit, même avant que tu arrives, on te dit quand tu vas sortir de l'école, tu sauras faire un métier toute ta vie et tu pourras le faire dans plein de boîtes différentes. Mais quand tu sors, tu as toutes les clés pour comprendre.
Et ben ça, c'est terminé à mon avis. Et souvent, moi, ce que je dis, et j'en suis convaincu, c'est que le diplôme, on va pas dire qu'il sert plus à rien. Il sert à apprendre, à structurer la façon d'apprendre, à rencontrer des personnes. Quand on fait des études supérieures, on rencontre du monde. Bref, le diplôme sert toujours. Et bien évidemment, l'école existera toujours, je le pense, et en tout cas, il le faut. Mais aujourd'hui, quand on sort d'école, clairement, on est obligé de se former tous les jours sur plein de sujets. Moi, à titre perso, j'ai fait un master, et tu le disais en introduction, j'ai fait un master en communication, spécialisation politique. Rien à voir avec l'entrepreneuriat et ce que je fais aujourd'hui et le monde de la formation. Mais pourquoi je suis allé vers ça? Parce que je me suis intéressé à l'entrepreneuriat à travers des youtubeurs que j'ai suivis, à travers des cours en ligne, c'était les MOOC à l'époque où j'étais étudiant. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait énormément de contenu à dispo fait que on s'ouvre beaucoup plus. Et dès qu'on a terminé son master ou ses études, peu importe qu'on ait fait des études ou pas, on va aller se former sur pas mal de sujets au quotidien.
Est-ce que tu dirais que ça peut, entre guillemets, rebattre un peu les cartes des longues carrières linéaires, finalement, où on était bloqué un peu, bloqué dans un métier qu'on avait choisi souvent 20, 30 ans avant, et que ça peut permettre aussi aux gens de vivre plusieurs vies professionnelles, finalement?
Oui, clairement, parce que aujourd'hui, on a plein d'exemples de personnes qui ont changé de job. Et on en parlait ce matin justement avec notre équipe. On a, par exemple, nous, un responsable formation d'une boîte de conseil. Avant, il était consultant et avant, il était commercial. Donc, on voit qu'à 30 ans, il a déjà fait 3 jobs complètement différents. Et aujourd'hui, alors les études le disent, on va faire tous 7 jobs différents. Moi, je pense 7, que c'est même okay. Plus.
Ouais.
Les études disent 7.
Bon, je crois qu'on a battu déjà ça avec Arthur.
Moi, j'en suis à 3-4 aussi, peut-être. En tout cas, je pense que ça va être plus que ça, et notamment parce qu'à 50% des métiers, on ne les connaît même pas. Et c'est ça qui est à la fois incroyable et passionnant, c'est qu'on va devoir se former sur tous ces nouveaux métiers, et tout est rebattu en termes de cartes. Aujourd'hui, on peut vraiment, par soi-même, au final, changer de métier ou se former sur un sujet gratuitement.
C'est fascinant, pour le coup. Et de la même manière, on entend souvent la problématique de la crise des talents en ce moment. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter les bonnes personnes. Est-ce que la formation continue peut aussi permettre de les garder, justement en leur proposant de continuer à se former, à s'éveiller sur des nouveaux sujets, en plus aux frais de l'entreprise? Est-ce que c'est un argument sur lequel les entreprises peuvent vraiment jouer, tu penses?
Ouais, bien sûr. Et en fait, nous, c'est le discours qu'on porte et qui commence à prendre, c'est que quand on est une entreprise, on doit former sur toutes les thématiques tous ses salariés. Pour information, il y a encore des entreprises aujourd'hui, de moins en moins, mais il y en a encore, qui se disent « Ok, tel salarié est manager, on va le former au management. Par contre, tel salarié qui n'est pas manager n'a pas le droit de se former au management. » Voilà, c'est assez réducteur, mais ça l'est encore plus qu'on le pense dans les entreprises. Et nous, on est dans une logique de dire aux entreprises, de dire au marché « Allez-y, formez, ouvrez la formation à un maximum de salariés, quelles que soient les thématiques. » Et quel que soit le métier au final du salarié. Donc oui, les entreprises, si elles veulent garder les talents, elles doivent former les salariés sur
plein de sujets. C'est un moyen de s'épanouir au quotidien, ouais.
Exactement. Et de se dire, tiens, de toute façon, aujourd'hui, on a accès, encore une fois, on le disait, on sort son smartphone, on a accès à une mine d'or de formation, d'information, de connaissances. Bah, autant que l'entreprise la mette à disposition, comme ça, le salarié aura l'impression, ou en tout cas, sera heureux que son entreprise lui mette ça à dispo plutôt que de sortir son smartphone et d'aller chercher par soi-même, et potentiellement de se former par soi-même et à terme de quitter l'entreprise.
Est-ce que tu constates des perceptions de la formation un peu différentes en fonction de la taille de ton interlocuteur? Est-ce que un grand groupe, une PME, une TPE, ont des perceptions différentes du sujet?
Ouais, bien sûr, il y a des perceptions ultra différentes, et même au sein de grands groupes, par exemple, entre le DRH d'une boîte qui a une vision très stratégique, qui est potentiellement au comité exécutif ou comité de direction de la boîte, et puis le responsable formation, le chargé RH, qui va être dans l'administration de la formation. Donc si on se concentre sur les grands groupes, et après on ira sur les PME, dans les grands groupes, par exemple, on a compris au niveau direction que tout se transformait, qu'il fallait aller super vite, qu'il fallait former sur des nouveaux sujets. Quand on dit nouveaux sujets, c'est transition écologique, intelligence artificielle. On l'a compris parce qu'on sait que ça va transformer les entreprises demain et il faut aller très vite. Par contre, au niveau responsable formation, chargé de formation, on est encore beaucoup dans l'opérationnel, et ce n'est pas une critique quand je dis ça, mais dans l'opérationnel de « bah oui, mais moi j'ai besoin de répondre à un besoin de formation de telle personne qui a dit à son manager qu'il voulait être formé sur tel sujet ». Et donc du coup, c'est des sujets moins stratégiques et plutôt au jour le jour sur des choses très opérationnelles. Donc il y a une différence entre la direction qui a une vision très claire et qui se dit que tout va évoluer vite, et puis les équipes opérationnelles qui en plus sont sur des formats assez traditionnels, ont l'habitude depuis 20 ans de former de la même manière. Et clairement, nous on le dit, le e-learning entre guillemets à la papa, ça doit s'arrêter, parce que pourquoi les salariés n'aiment pas la formation dans l'entreprise? Est-ce que c'est obligatoire? parce que on peut le dire, c'est chiant, et parce que les modules sont pas du tout sexy par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de consommer dans sa vie perso. Ça, c'est côté grande entreprise, et côté PME ou entreprise de taille intermédiaire, ETI, ce qu'on va avoir comme vision dans ces entreprises, c'est que la formation est un bonus et on n'a pas le temps de former. Les salariés doivent être sur le terrain, doivent être opérationnels, et la formation, ça passe après. Donc, tout le discours que nous, pareil, on essaie de porter, c'est de dire, OK, offrez au moins un outil ou de manière instantanée. Quand j'ai un besoin, je peux aller me former, je perds pas mon temps sur Google à chercher le bon contenu. Et donc, ce discours prend de plus en plus parce que de plus en plus, les salariés disent à leur boss, à leur manager, bon, bah, j'ai trouvé une formation par moi-même, je vais m'y inscrire et puis tu vas me la rembourser plus tard. Vraiment... Et il y a vraiment de la demande. On se dit tout le temps que les salariés ont pas envie de se former, finalement. Quand on parle de les gens se forment par eux-mêmes.
C'est un argument facile aussi. De dire, voilà, ils ont pas envie de se former, on fait pas d'efforts.
C'est ça. Et nous, on est persuadés que tout le monde se forme sans le savoir au quotidien. Et il faut mettre à dispo les bons outils quand on est dans des entreprises, qu'elles soient plus ou moins grandes.
Est-ce que c'est aussi un élément de la marque employeur? Est-ce que toi, tes clients, par exemple, utilisent le fait de t'avoir comme client? Que tu sois leur avoir une relation consommateur-client comme élément de leur marque employeur.
Ouais, ils le mettent de plus en plus en avant. On a quelques clients et je vais les citer. On a Allianz côté assureur grande entreprise, tout le monde connaît, et Agap2 qui est un cabinet de conseil qui nous ont même mis dans leur rapport RSE.
Ok.
Si vous allez sur leur site, vous retrouverez même dans les bénéfices collaborateurs le fait d'avoir accès à un outil de formation tout au long de sa carrière, tout au long de son expérience chez Allianz ou chez Agap2. Pourquoi ils font ça? Bah parce que aujourd'hui, on cherche, quand on est une entreprise, tu le disais tout à l'heure, à attirer les talents, mais aussi à faire de la rétention et les garder, ces talents. Et c'est un outil.
C'est presque plus dur, même.
C'est presque plus dur. Et donc, du coup, c'est un outil pour aujourd'hui attirer et fidéliser la formation plus qu'on le pense. Et les salariés viennent bien évidemment pour un salaire, viennent pour un plan de carrière, mais de plus en plus viennent aussi s'ils ont accès à plein de formations qui vont leur permettre de se certifier et peut-être de développer leur employabilité en interne au sein de la boîte, mais aussi en externe.
Ok. Et donc, l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences est une vraie demande et se trouve aujourd'hui être un élément différenciant sur le marché du travail, selon toi.
Ouais, clairement. Et on a un exemple d'entreprise qui réussit en termes de montée en compétences, et c'est essentiel de l'avoir en tête aujourd'hui. C'est que Tesla, par exemple, il y a 10 ans, a recruté des salariés. Il y a 10 ans, Tesla, tout le monde se disait, bon, il ne faut jamais réussir à devenir un leader dans le monde du véhicule électrique, parce que ce n'est pas l'avenir, l'électrique, parce que personne n'a réussi et parce que personne n'a les compétences pour développer des technologies de ce type. Tesla, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi massivement en formation il y a 10 ans, et surtout, ils ont fait ce qu'on appelle de l'upskilling et du reskilling sur des salariés qui avaient l'habitude de travailler dans d'autres domaines. Ils les ont formés, ils sont engagés à développer leurs compétences et surtout, ils les ont formés au quotidien pendant 10 ans. Aujourd'hui, Tesla, si je ne me trompe pas, en termes de vente de voitures, c'est la deuxième, il y a une de leurs voitures qui est la deuxième voiture la plus vendue au monde, en tout cas en termes de commandes aujourd'hui. Pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils ont réussi à être à la pointe de la technologie avec les meilleurs salariés qu'ils ont formés au quotidien sur tout ce qu'il y a de meilleur, et ils continuent de le faire. Renault a annoncé récemment qu'il voulait aller être le Tesla français, Tesla européen, en tout cas être, je sais pas s'il parle de Tesla français ou de Tesla européen, mais un des leaders comme Tesla de l'électrique. Et Renault est en train de transformer aussi complètement son organisation à travers de la formation. La formation sur les nouvelles technos pour avoir les meilleurs salariés et pour faire aussi de la montée en compétences et encore une fois du reskilling, donc de l'évolution de compétences pour des personnes qui travaillent aujourd'hui au sein du groupe Renault.
Est-ce que tu penses justement que le fait de former à ces nouvelles thématiques tech peut, pour ces grands groupes, permettre de redonner aussi un peu plus de boost et aller pas aussi vite, bien sûr, que des structures type start-up, mais redonner de l'élan?
Clairement, les grands groupes s'inspirent des start-up comme les start-up s'inspirent des grands groupes quand on se structure et qu'on grossit. Mais oui, il faut, quand on est un grand groupe, aller s'inspirer de ce qui marche bien en termes d'innovation, et notamment, comme tu le disais, pouvoir proposer sur de l'intelligence artificielle, sur des nouvelles technos, sur des nouveaux outils, des formations, pour donner envie aux salariés de se former, de développer ses compétences, surtout d'être fier de travailler dans cette boîte, parce que quand on regarde Apple, quand on regarde Tesla, quand on regarde aussi des boîtes en France, certains sont très fiers d'y travailler, d'y rester, et c'est ce qu'on doit avoir comme vision, je pense, quand on est une grande entreprise.
Est-ce que c'est aussi un élément de d'épanouissement personnel au travail et de satisfaction professionnelle, de le fait de monter en compétence et de pouvoir se former comme ça à sa guise sur les sujets qui nous animent et sur lesquels on sent qu'on va avoir une valorisation au sein de l'entreprise.
Bah, je pense que oui, et plus qu'on le pense, encore une fois, je vais prendre mon exemple à titre perso. Comme je vous le disais, j'ai fait un master en com, et en 7 ans, j'ai appris ce qu'était la compta, j'ai appris ce qu'était de la finance, un reporting financier, le management d'une équipe, les fonctions commerciales, les fonctions marketing. Et en fait, tout ça, je l'ai appris à la fois en échangeant, bien évidemment, avec des collaborateurs qu'on a recrutés, mais surtout sur Internet. Je me rappelle encore, en 2018-2019, pour gérer ma compta, j'étais sur Open Classrooms, en train de suivre des cours en ligne gratuits. Quand j'avais une question sur comment calculer un BFR, donc qui a un besoin en fonds de roulement, parce que le cash est important dans une entreprise comme la nôtre, qui est une petite entreprise, qui était une petite entreprise en 2018-2019, bah, j'étais sur YouTube en train de chercher, j'ai levé le contenu. Et en fait, me former par moi-même m'a permis de m'épanouir sur plein de sujets à titre perso et à titre pro, parce qu'aujourd'hui, je me dis que j'ai appris plein de choses. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On peut, en tout cas, apprendre plein de choses et être très, très fier de ça.
Tout à l'heure, tu parlais donc aussi de l'importance d'avoir quelqu'un peut-être pour gérer en interne ces sujets-là, que ce soit petite ou grande entreprise. Est-ce que pour toi, ça te paraît délirant ou pertinent d'avoir un chief education officer? En tout cas, quelqu'un qui soit dans les structures importantes en charge de dire, de suivre les sujets, alors peut-être pas forcément à temps plein, faire quelque chose à côté, mais d'être en charge de ces sujets-là, de dire sur quelle thématique il va falloir former chaque année les nouveaux employés et de mettre ça en place.
Ouais, dans le monde de l'entreprise, dans les grandes entreprises, ils appellent ça le Chief Learning Officer.
Ok, donc c'est déjà,
un poste qui existe et justement qui est un poste qui va de plus en plus être au comité de direction. Parce que, comme on le disait, je cite l'exemple de Tesla, de Renault, d'autres boîtes qui se disent « Ok, tout va se transformer, il va falloir être efficace, rapide. » Alors, des plans de formation, pas attendre 2 ans pour former les salariés, ce qui est encore le cas aujourd'hui parfois. Les salariés attendent 3 mois sa formation.
Ouais, alors que c'est déjà que les technologies avancent super vite.
Exactement. Et donc, du coup, pour se former tout au long de sa vie, le Chief Learning Officer, aujourd'hui, quand il est présent dans certaines boîtes, il est en charge justement de préparer le plan, l'exécution de ce plan, et faire valider les budgets auprès du comité de direction. Donc il est de plus en plus intégré, comme le DRH, au sein d'un comité exécutif, un comité de direction, et je pense que c'est une bonne chose, parce que les choses changent, et c'est plus le responsable formation qui est de manière opérationnelle, juste à gérer de manière réactive la formation, et on est dans une logique plutôt proactive de dire aux salariés, voilà ce que vous avez à dispo, et ce que vous devez faire pour évoluer sur votre métier.
Dès le début de cette discussion, on est parti du postulat que la formation se faisait en ligne, parce que vous, c'est ce que vous faites. Est-ce que tu penses que la formation en physique, elle garde une pertinence? Ça reste quelque chose d'intéressant? Ou alors la formation en ligne, par tous les avantages qu'elle a de flexibilité, etc., dépasse de loin la formation physique?
Peut-être en modèle hybride aussi?
Ouais, moi je suis persuadé, on appelle ça le blended learning dans les entreprises. Persuadé qu'il faut mixer. Alors avant le Covid, c'était 80-20, 80% de présentiel, 20% de digital. On est plutôt allé, peut-être pas à 80-20 dans l'autre sens, mais au moins à 70-30. Aujourd'hui, on a pris conscience qu'on pouvait mettre 70% des formations à dispo en ligne et 30% en présentiel. Pourquoi le présentiel est indispensable? Parce que c'est contact humain quand même, et la formation, c'est de l'échange, c'est de l'apprentissage parfois entre pairs et avec un formateur. Sur des sujets, par exemple sur la prise de parole en public, sur du management en situation, il y a besoin d'être en présentiel au-delà de toute la théorie et tout l'apprentissage qu'on peut avoir en ligne. Donc moi, je suis persuadé qu'il faut garder du présentiel. Par contre, il faut revoir la façon dont on pense la formation présentielle dans les entreprises, parce qu'on peut faire des économies en mettant un peu plus de digital. On peut rendre les collaborateurs beaucoup plus satisfaits, beaucoup plus heureux, parce qu'au moins, ils peuvent à tout moment aller consommer du contenu et encore une fois, pas attendre 3 mois la formation présentielle. Puis le troisième élément, très certainement essentiel, c'est qu'aujourd'hui, comme on se forme tout au long de sa vie, on va avoir des temps de présentiel, peut-être 1 ou 2 fois par an, qui vont être programmés, mais sous des formats qui sont beaucoup plus collaboratifs et qui permettent de compléter une formation qu'on aura retrouvée en ligne durant l'année, qu'on aura suivie peut-être 4, 5, 6 fois. En tout cas, on sera connecté 4, 5, 6 fois en ligne sur une plateforme de contenu.
Pour reformuler sur ce que tu viens de dire, c'est que toi, comment tu fais les choses, c'est que les formations très théoriques, tu peux les faire en ligne. Les formations qui impliquent de la pratique, de la mise en action de ce que tu fais. Donc, si par exemple, la prise de parole, apprendre à manager, apprendre à vendre, nécessite d'être fait en physique, ça.
Exactement.
Et donc, par exemple, faire ça, faire un prompt sur ChatGPT, ça peut se faire en ligne, parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt de faire en physique.
Voilà, et c'est comme, moi, j'ai l'exemple que j'adore citer, c'est se former sur Excel. Ça, c'est le gros truc des entreprises.
C'est vrai, ouais.
Dépenser des millions d'euros sur le sujet. Et ça continue dans certaines entreprises d'envoyer 7 heures un collaborateur en formation avec un formateur qui va montrer les fonctionnalités une par une. Un, le collaborateur, il va pas écouter les 7 heures. Alors oui, il aura bien signé son attestation, il aura bien suivi ses 7 heures dans le système, en quelque sorte. Par contre, au final, avec deux tutos de 10 minutes bien ciblés, ça aurait été un, plus efficace, deux, beaucoup moins cher, et trois, beaucoup plus satisfaisant pour le collab qui n'aurait pas perdu son temps en formation présentielle. Donc il y a des formations comme ça qui vont complètement disparaître pour le coup avec le distance.
Et du coup, même sur les formations qui nécessitent une mise en pratique, tu recommanderais d'avoir quand même une partie distancielle sur la théorie et de faire uniquement la pratique de manière un peu gamifiée en real, ou par exemple tu vas avoir, je sais pas, des jeux ou...
Ouais, moi, enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est la bonne approche. C'est ce qui donne envie aux collaborateurs de s'y venir en présentiel et avoir une approche collaborative avec des exercices, des cas pratiques, des jeux, de la gamification, comme on appelle ça dans le monde de la formation, c'est essentiel.
Et au sujet justement des thématiques des formations, comment ça se passe? Est-ce que c'est les entreprises qui vous font remonter chaque mois, chaque année, les thématiques sur lesquelles elles veulent vous leur proposer des formations? Est-ce que vous avez une veille à ce niveau-là? Comment vous décidez des sujets stratégiques?
Ouais, bah, y a deux approches. Une première approche qui est avec Edflex, t'as accès à une grande bibliothèque de contenu. Moi, ce que j'aime bien dire aux responsables de formation, c'est avant, vous aviez un grand catalogue où vous choisissiez, c'est comme ça que ça marchait dans les entreprises de manière papier, je choisissais ma formation pour mes commerciaux, pour mes managers, etc. Et ça pouvait me prendre beaucoup de temps, mais par contre, j'avais accès à tout moment à ce catalogue. Bah, j'ai la même chose maintenant en ligne, bibliothèque de contenu, où là, je vais pouvoir former mes salariés sur plein de sujets. Donc, accès sur des nouveaux sujets, notamment grâce à ce que fait Edflex, aller chercher les nouvelles tendances, intelligence artificielle, ChatGPT. On avait du contenu une semaine après l'annonce qui a fait le buzz sur le lancement de ChatGPT, même si ça existait depuis un petit moment. On avait déjà du contenu pour former, on a dit à tous nos clients, bah, vous avez déjà du contenu sur Edflex, donc on est proactif, c'est la première approche. La deuxième approche, qui est le monde de la formation tel qu'on le connaît en entreprise, qui est, il y a des entretiens annuels, en début d'année en général, il y a des besoins qui sont exprimés, je veux me former sur tel ou tel sujet, et Edflex est une réponse sur... Aujourd'hui, on l'estime, 95% des besoins qui sont exprimés par les collabs.
Comment tu peux conseiller justement à une petite entreprise qui fait le choix de gérer un peu ça par elle-même, de se renseigner sur les bonnes thématiques? Parce que quand on n'est pas forcément au courant de tout, les nouveautés technologiques, par exemple, sur les sujets technologiques, on peut être un peu perdu. Est-ce que tu as des petites techniques pour ça ou des conseils sur la manière de bien cibler les sujets importants sur lesquels former ses employés?
Ouais, bah après c'est ce que nous on fait. Même si vous avez, si des gens nous écoutent et n'ont pas l'outil Edflex, c'est assez simple en fait. On fait de la curation. Alors le terme est très moche, mais on peut le faire tous. On fait de la sélection de sources en disant tiens, ce youtubeur là, la veille, soit ce youtubeur là, soit ce blog là, ce podcast là permet de former sur tel et tel sujet et toujours à la pointe quand il y a une nouvelle techno. On les liste, on récupère l'info et après on les communique aux salariés dans ces entreprises-là. Donc c'est assez simple de le faire par soi-même. Nous, on l'a industrialisé et tout est automatisé. Mais aujourd'hui, bah, Internet est la première source de formation, hein, je pense.
Est-ce qu'il y a des grands obstacles à la formation en ligne? Je peux penser par exemple au financement ou à l'accès à certaines ressources, au fait de pouvoir vérifier les sources de ce que disent les gens, parce que sur Internet, c'est quand même pas mal de conneries. Est-ce que tu constates, toi, des obstacles, des trucs sur lesquels vous butez toujours, ou des trucs sur lesquels les entreprises ont peur?
Alors, des trucs sur lesquels on bute, non, parce que notre métier, c'est justement d'aller vérifier les contenus, les sources. Et oui, il y a beaucoup de choses non qualitatives sur Internet, ça, c'est clair. Donc, obstacles, on arrive à les passer en allant chercher les bonnes sources. Par contre, les entreprises, en effet, ont aujourd'hui des réticences à se dire que elles vont pouvoir former avec ces outils-là. Et l'obstacle est plutôt de dire à l'entreprise, d'arriver à convaincre que oui, on peut, si on va chercher au bon endroit les bons contenus, on peut avoir des contenus qui sont gratuits, de grande qualité. Et pour les contenus payants, donc nous, c'est ce qu'on propose notamment dans Edflex, plutôt que d'aller acheter ici et là sur Internet des catalogues en ligne de formation, qu'on paye à l'unité, on peut se faire avoir par la pub sur Google. Quand on tape formation management, il y a 10 liens sponsorisés et peut-être que le bon contenu il est en 10e page Google. Bah, nous, on a tout mis au même endroit et même les contenus payants, on peut les acheter directement dans Netflix en étant sûr de la qualité.
Et tu travailles avec des écoles ou des institutions là-dessus aussi ou pas? Ou les écoles vous voient un peu comme une menace?
Non, on travaille avec des écoles et on travaille notamment avec tous les réseaux alumni quasiment des plus grandes écoles, HEC, SEC, Neoma, etc. Pourquoi ils nous accompagnent? Pourquoi on les accompagne, pardon? Parce que aujourd'hui, ils ont compris déjà qu'il fallait former tout au long de la vie et même les étudiants qui sont diplômés et garder l'image de marque d'un HEC pour peut-être, on va se le dire, revendre à terme un programme. Mais en tout cas, Netflix permet d'offrir de la formation. Les écoles ne nous voient pas comme de la concurrence, elles nous voient plutôt comme un apport, dans le sens où on va pousser des contenus qui vont aller en complément des cours qui sont proposés par les professeurs et les intervenants.
Ok. Et du coup, que les institutions gouvernementales vous poussent aussi un petit peu, ou alors pas du tout? Parce que quand on suit un chemin très classique, tu vois, moi, j'ai un profil un peu particulier où je me suis toujours formé un peu par moi-même et c'est comme ça que j'arrive à apprendre. Même quand je suis dans un format très classique, je suis obligé de me former par moi-même pour comprendre ce que je fais. Et si juste j'écoute un prof, je comprends rien, je mémorise rien. Mais sur un format quand même très classique, on pense pas au fait de se former à côté et de se former durant sa vie pro. Est-ce que les organisations changent un peu leur discours, mettent en avant cette formation continue? Ou pas forcément? Il n'y a pas forcément de mouvement sociétal là-dessus.
Gouvernementale, tu penses au ministère, aux collectivités? Ouais. Ouais. Alors, c'est des institutions qui, déjà, pour former leurs salariés, sont assez traditionnelles dans l'approche, mais qui évoluent. Donc ça, voilà, il faut le dire, ça évolue lentement, mais ça évolue. On forme de plus en plus en ligne les collaborateurs, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Nous, on travaille avec beaucoup d'organisations publiques, Radio France, Voie Navigable de France, Croix-Rouge côté associatif, et on voit qu'il y a de l'appétence. Après, clairement, l'État a un temps de retard sur le sujet de la formation. C'est-à-dire que il y a des dispositifs qui existent pour le grand public. Il y a eu le compte professionnel de formation, le CPF, notamment Emmanuel Macron qui a essayé de le rendre un peu plus simple en mettant des euros plutôt que des heures. Donc, je pense que ça va dans le bon sens sur ça. Mais pour les entreprises, aujourd'hui, Le gouvernement, en tout cas, est plutôt dans une logique de moins de financement et de plus donner le rôle à l'entreprise de former les salariés. Là où, selon moi, l'État pourrait investir et se dire « Ok, il y a des entreprises qu'on doit aider pour le reskilling, pour former sur des nouveaux sujets, pour éviter des pertes d'emploi demain. » Et l'État, voilà, un peu avec un temps de retard. En tout cas, c'est mon analyse.
Ok. Après, là-dessus, c'est peut-être aussi une question de... Bon, on va pas rentrer dans les discussions politiques, mais c'est aussi une question d'arbitrage face à la dette, tu vois.
Bien sûr, bien sûr.
Pour réduire un peu,
évidemment,
un peu les dépenses.
Après, on le voit juste peut-être pour préciser sur ça, est-ce que Pôle emploi, je crois que ça va se renommer France Compétences bientôt, ou France... je sais plus, en tout cas.
Voilà.
C'est de changer le nom, mais le Pôle emploi est un bon exemple. Et nous, on avait travaillé avec eux il y a 3 ans maintenant, je crois. C'était au moment du Covid. Ils avaient un gros sujet chez Pôle emploi. C'est le fait qu'en fait, les demandeurs d'emploi qui venaient chercher un job avaient parfois plus de connaissances sur les nouveaux métiers que les conseillers Pôle emploi. Donc nous, ils nous avaient sollicité pour dire « Ok, on a conscience qu'Edflex, vous allez chercher tous les meilleurs contenus les plus à jour qui existent aussi pour former sur les nouveaux métiers. » On avait créé ce qu'on appelait le portail des métiers. Le but, c'était de former les agents Pôle emploi pour que, à tout moment, l'agent Pôle emploi, quand il entend parler d'un métier, à l'époque, c'était Social Media Manager.
Ouais.
Voilà, c'est gestion des réseaux sociaux. Ouais, c'est très nouveau. Alors, un petit peu moins maintenant, mais en tout cas, c'est encore nouveau. Mais il y a plein d'agents Pôle emploi qui ne savaient pas ce qu'était ce métier. Donc, vous imaginez la discussion de sourds avec un demandeur d'emploi qui va trouver un job autrement. Et ça, c'est un signe que l'État forme, mais forme pas assez vite les collaborateurs, notamment chez Pôle emploi. Et nous, par exemple, le portail des métiers, c'est typiquement le genre de projet où, au final, ça s'est arrêté. Parce que chez Pôle emploi, ils se sont dit non, finalement, c'est pas trop prioritaire. Et aujourd'hui, chez Pôle emploi, ils se forment encore de manière ultra traditionnelle. Et je pense que c'est aussi pour ça que parfois, des plateformes privées prennent de plus en plus de place. LinkedIn, on le voit, pour trouver un job en France par rapport à des institutions d'État qui coûtent quand même très cher. Si on revient sur la dette, ça coûte très cher.
Totalement. Voilà.
Puis tu le mentionnais tout à l'heure, le risque aussi, un des enjeux, c'est d'avoir des formations qui soient ennuyantes ou peu engageantes. Quelles pistes vous avez-vous aussi pour amener de la pédagogie dans ces formations d'entreprise? Tu mentionnais notamment la gamification. On a un épisode à ce sujet-là avec Valentin Richard, ancien CEO en plus d'une boîte de formation de l'époque. Est-ce que, ouais, comment vous, quel mécanisme vous utilisez justement pour un peu dynamiser ce genre de formation?
Nous, notre conviction, c'est que chacun apprend différemment et que certains aiment les podcasts. Moi, j'adore écouter des podcasts, notamment sur les métiers de la vente. Certains préfèrent lire. Donc, la lecture, c'est de l'article, du guide, du e-book potentiel en ligne. Certains aiment bien les cours en ligne. On peut penser aux cours en ligne d'Open Classrooms qui sont accessibles pour beaucoup gratuitement. Bref, comme chacun apprend différemment, nous, sur notre solution, on a référencé le plus de formats possible. Et en fait, quand tu arrives sur la solution, tu peux choisir le format qui te convient. Encore une fois, on s'inspire des codes qui fonctionnent. Je trouve que Netflix est plutôt un bon exemple, ou Amazon Prime, mais Prime Video. Mais en fait, si tu veux regarder un documentaire, tu filtres sur les docus. Si tu veux regarder un film ou une série, tu choisis. Nous, c'est pareil. Et c'est cette logique-là qui fait que tu as de l'engagement.
Tu penses que si on avait l'adaptabilité, en fait, c'est ça?
Exactement, la flexibilité dans le format.
À tout le monde.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une personne qui vient sur Netflix et qui se dit « Ah non, en fait, c'est que de la vidéo » ou « Non, c'est que du cours en ligne, c'est chiant. » Et ça, c'est hyper intéressant en termes d'engagement. Et pareil, on dit aux entreprises, quand ils achètent des solutions de formation en ligne, les équipes formation, on leur dit « Regardez bien, alors qu'ils achètent Netflix ou pas, regardez bien s'il y a bien plein de formats, s'il y a plein de thématiques. » C'est tout ça qui fait qu'on revient. Et encore une fois, quand on fait le lien avec la vie perso, qu'est-ce qui fait qu'on reste abonné ou pas et qu'on revient sur Netflix ou pas? C'est si c'est régulièrement alimenté, si le contenu bien évidemment est de qualité, et si on retrouve au final tout ce qui nous intéresse et tous les soirs on a envie de le lancer. C'est pareil pour la formation, il faut s'inspirer de ces codes-là.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti. C'est vrai qu'il y a aussi un risque pour les entreprises, mine de rien, parce que d'une certaine manière, quand on donne des formations en ligne à faire, entre guillemets, sous forme d'obligation, la personne peut avoir coché toutes les cases, mais avoir fait ça à moitié en train de faire autre chose ou en ayant passé les modules.
Clairement, et c'est comme la formation présentielle. Souvent, on nous dit, mais comment vous allez vous assurer que les collaborateurs ont bien suivi la formation?
Faut passer un bon moment, quoi.
Ouais, mais faut passer un bon moment. Et puis surtout, moi je réponds, est-ce que vous pensez vraiment que le collaborateur que vous avez envoyé 7 heures, alors oui, il a bien coché toutes les cases, il a appris quelque chose pendant les 7 heures. Non, il a peut-être appris quelque chose pendant une heure et il a dormi pendant 6 heures. J'exagère, mais c'est vraiment ça. Et il faut vraiment transformer la façon de penser sur ça. Et oui, on peut apprendre quelque chose en regardant 15 minutes une vidéo et pas avoir fait 7 heures de cours où on aurait coché toutes les cases.
Est-ce que sur Netflix, tu as des particuliers qui s'inscrivent?
Non, aujourd'hui, on n'a pas de particulier. On a fait le choix de se lancer auprès des entreprises. Peut-être qu'un jour, on ira sur le monde des particuliers. Et aujourd'hui, pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'on n'est pas convaincu que des personnes soient prêtes à payer pour avoir accès à une plateforme de formation avec des contenus qu'on pourrait retrouver ici et là. En tout cas, pas assez de personnes pour faire vivre l'entreprise. Et on pense plutôt qu'on peut révolutionner le secteur de la formation professionnelle en entreprise. C'est le choix qu'on a fait en se disant, OK, en fait, c'est tellement vieillissant, c'est tellement poussiéreux, entre guillemets, qu'on peut tout révolutionner dans ce secteur qui vit encore quelques années en arrière par rapport au monde dans lequel on vit.
Et ça t'est déjà arrivé de faire tes propres formations? Tu t'es jamais dit, je vais produire mon propre contenu?
On y a pensé. Alors moi, à titre perso, non. Mais l'équipe chez Netflix y a pensé. Et c'est voilà, ça fait dans un coin de notre tête, ça fait partie peut-être des évolutions de se dire, je prends encore l'exemple de Netflix, mais est-ce que ça parle, de se dire, OK, au-delà d'aller chercher les meilleurs contenus, hein, c'est ce qu'a fait Netflix au début, chercher les meilleures séries, les meilleurs films, les agréger sans rien produire. Netflix, en voyant que ça fonctionnait, en voyant qu'il y avait des tendances fortes, s'est dit, en fait, pourquoi on ne créerait pas nos propres contenus sur certaines thématiques qui marcheraient? Je trouve que c'est plutôt bien d'avoir l'alliance des deux. Aujourd'hui, produire du contenu, ça coûte cher. Donc c'est pour ça aussi qu'on le fait pas, et on veut quand même rester assez agnostique, dans le sens où aujourd'hui on agrège tous les acteurs de qualité. Si on commence, et donc ils sont sur Netflix, ils sont très contents d'être sur Netflix, si on commence à leur dire qu'en termes de rétribution potentielle de nos revenus, hein, parce qu'il y en a qui sont rétribués des revenus qu'on a, Netflix va produire ses propres contenus, je pense qu'il y aura un petit conflit d'intérêts. En tout cas, c'est pas un projet court terme.
Mais t'as l'impression que l'information va assez vite. qu'il y a suffisamment de formations qui sont produites et qu'il y a, tu t'es jamais retrouvé face à un moment où soit une entreprise, soit toi voulait une formation et elle existait nulle part.
Non, c'est jamais arrivé. Par contre, c'est arrivé plein de fois où l'entreprise nous a contactés en nous disant « on n'a aucune formation, qu'est-ce que vous avez chez Edflex ?» Pourquoi je dis ça ? Parce que, je prends un exemple très concret, le télétravail. Télétravail en 2020, premier confinement, bien évidemment, plein d'entreprises avaient déjà mis des modules de formation sur le sujet. Les modules de formation démarraient tous depuis des années sur 3% des collaborateurs font du télétravail et vous. Et puis ensuite, il y avait une formation sur qu'est-ce que le télétravail et autres. On s'imagine bien que le premier jour du confinement, toutes les entreprises se disent « Ah cool, on a des modules en télétravail, on va les pousser à nos collabs. » 2-3 personnes dans l'équipe formation qui regardent et qui voient que ces contenus ne sont pas du tout à jour. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent « Oh là là, il faut recréer ça, ça va durer 3 semaines parce que c'est long, parce qu'il faut appeler un prestataire ou le faire soi-même. » Bref. Là où, sur Internet, il y avait déjà tout à disposition. Il y avait des articles de qualité, il y avait des vidéos sur voilà, comment manager à distance, comment on utilise le collaboratif pour travailler avec Slack, Teams ou autre. Et donc, nous, c'est plus souvent l'entreprise qui nous dit quand elle a Edflex ou même quand elle n'a pas Edflex et qu'elle a plein d'autres contenus sur des sujets qu'elle ne voulait pas traiter avec Edflex, mais où ça a évolué très vite, pareil sur l'intelligence artificielle, elle nous dit « Ok, comment Edflex, vous pouvez nous aider ?» Je vais prendre un autre exemple, l'intelligence artificielle et ChatGPT. On a toutes les entreprises qui, quand ça a explosé, nous ont dit « Ok, Edflex, on sait que vous êtes réactif, vous allez avoir du contenu, proposez-nous, et ce que je disais tout à l'heure, le top 10 des contenus sur le sujet. » Une semaine après, c'était en ligne.
C'est une course de vitesse, en fait, pour les entreprises aussi, de se dire « faut toujours vraiment être à jour dès qu'il y a un truc qui sort. »
Bah ouais, parce qu'en fait, si l'entreprise ne réagit pas vite, ne communique pas et ne fait pas le nécessaire pour donner du contenu, le salarié va sur Google. Et même quand l'entreprise fait le nécessaire, le salarié va sur Google. Pourquoi il va sur Google ? Parce que c'est plus intuitif, c'est rapide. Par contre, il va perdre du temps parce que soit on sait très bien utiliser Google et on a déjà ses filtres, soit on va se perdre et on va perdre une heure de son temps.
Est-ce que tu vois des grandes tendances émerger sur la formation ? La formation et la formation continue ?
De manière générale ? Ouais, les grandes tendances, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup plus. Alors, je vais parler de la formation professionnelle pour commencer. On a beaucoup plus de contenus qui sont poussés dans les outils au final du salarié. Vous allez voir où je veux en venir. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des plateformes. Je me connectais sur une plateforme et j'avais une deuxième plateforme parce que mon service formation avait acheté un autre catalogue, et puis une troisième, et puis une quatrième, et puis une cinquième, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'entreprises, des grandes boîtes, je ne les citerai pas, ils ont 10 ou 15 plateformes. Et donc le salarié, il ne sait même pas où aller, encore une fois, il va sur Google parce que c'est plus simple. Donc là, il y a une vraie logique, une vraie tendance de fond à aller intégrer. Tous les acteurs vont dans ce mouvement d'intégration, dans cette grande tendance de dire « Ok, en fait, on ne va pas vous remettre une plateforme, on va plutôt vous pousser dans les outils où sont vos salariés, Microsoft Teams, le mail et potentiellement tous les autres outils qui sont à disposition, réseaux sociaux d'entreprise et autres, les contenus. Voilà la sélection du moment, un peu comme Netflix chaque mois. Voilà les futurs contenus qui vont avoir lieu, qui vont être diffusés. Et voilà le contenu qui te va bien, toi, parce que je sais que tu es commercial et que tu adores les podcasts. Je vais te pousser un contenu le matin dans ton outil et tu vas pouvoir aller te former au quotidien. Donc, logique très forte en termes de tendance d'intégration dans les outils. Donc ça, voilà, ça, c'est quelque chose d'important pour qu'il y ait du clic, de l'engagement et encore une fois qu'on ne sorte pas des outils d'entreprise. Plus globalement, pour le monde de la formation, la grande tendance, c'est d'avoir de plus en plus d'intervenants, de professeurs, de chefs d'entreprise qui, avant de donner des conférences en présentiel, de donner leur savoir en présentiel, ils ont complètement changé ça, ils le donnent de plus en plus gratuitement sur Internet. Alors pourquoi ils font ça ? Pour leur notoriété. Ils vont quand même vendre derrière quelque chose, ou en tout cas, ils vont développer leur notoriété, ça aura un intérêt. Mais la grande tendance depuis quelques années, notamment depuis le Covid, c'est qu'on va diffuser plein de contenus en ligne. Et en fait, ça révolutionne la formation parce que dans les écoles, quand on est étudiant aujourd'hui, on va potentiellement avoir un prof qui parle sur un sujet et ça ne nous a pas intéressé pendant une heure. On va quand même pouvoir rattraper le cours en allant suivre la même conférence par une autre personne sur YouTube. Ça, c'est assez révolutionnaire, entre guillemets. Et il y a plein d'exemples de lycéens aussi qui n'ont pas trop écouté pendant une année et qui, au final, un mois avant le bac, se réveillent Et aujourd'hui, ils peuvent, s'ils sont très motivés, s'ils sont très motivés, ils peuvent limite tout apprendre sur Internet. Ça ne veut pas dire qu'on va remplacer les professeurs ou les intervenants dans les écoles, mais ça veut dire qu'il y a un grand mouvement et il faut en prendre conscience. Entre ChatGPT, on peut faire une disserte en quelques minutes, et le fait que aujourd'hui, je peux avoir le même cours, voire mieux, en ligne qu'en présentiel, faut que l'école, faut que le lycée, le collège se renouvellent pour donner envie en fait à l'étudiant ou à n'importe qui d'aller suivre un cours. Donc ça remet en question tout le rôle du professeur et vraiment de lui donner envie à l'élève potentiellement de s'intéresser au cours et d'apprendre quelque chose.
Est-ce que tu vois des compétences futures qui vont devenir clés? Par exemple, tu vois, là par instinct, j'aurais tendance à dire que le prompt engineering, donc qui est aujourd'hui un nouveau métier, est une compétence clé pour tout le monde. Il faut savoir manier le prompt aussi bien qu'on manie son vocabulaire. Est-ce que comme ça, tu vois d'autres tendances? Est-ce que ça, tu penses que c'est une tendance?
Ouais, quand on manie en effet bien les prompts et ChatGPT, on peut gagner beaucoup de temps. Donc ouais, c'est un vrai plus. Moi, je le vois, on a notre équipe de commerciaux qui l'utilise. Ils l'utilisent notamment pour dire, tiens, j'ai besoin d'adresser le marché suisse. Là, j'ai un commercial qui a fait ça récemment. Besoin d'adresser le marché suisse. Liste-moi le top 100 des entreprises en Suisse. OK, donc ChatGPT lui répond. Liste-moi les entreprises qui ont le siège à Genève. Liste-moi les entreprises de plus de 500 collaborateurs. Et ça va très vite. Là où avant, on passait des heures à faire ça. Même avec Internet. Donc ça, c'est le premier élément. Bien manier les prompts, ChatGPT, l'intelligence artificielle. Après, il y a quand même des sujets autour, à mon avis, en termes de compétences, du travail à distance. Alors nous, ça nous paraît peut-être hyper intuitif, hyper logique de bosser à distance. C'est pas le cas de tout le monde. Et il y a une façon de manager à distance, de communiquer à l'écrit, de communiquer par caméra et plus en présentiel. Comment communiquer de l'émotion. Et en fait, tout ce qui est travail à distance, c'est une compétence essentielle et c'est souvent sous-estimé. Et un manager qui envoie sur un outil comme Slack ou Teams, où en fait, c'est très instantané, un message en disant « t'as pas fait ci », pourrait le dire autrement si on l'avait en présentiel, en lui disant « bah tiens, t'as pas fait ça, j'ai pas compris ». Peut-être qu'il veut l'exprimer de cette manière, mais à l'écrit, c'est pas perçu pareil. Donc, il y a des vraies compétences à avoir. Et aujourd'hui, c'est quand même une transformation qui est en train de s'opérer depuis quelques années, qui va s'accélérer, de se dire, OK, comment je bosse à distance, comment je bosse bien, comment j'engage mes salariés, comment j'ai du coup les bonnes compétences pour travailler de cette manière. Encore une fois, là, on est très, très centré sur des personnes qui travaillent avec un ordinateur et autres, mais pour des populations qui sont sur le terrain, ça va être d'autres sujets essentiels, mais plutôt sur de la montée en compétences, sur des métiers où tout évolue très vite, parce que la technologie et l'intelligence artificielle fait évoluer le quotidien d'un ouvrier chez Renault, tout à l'heure j'en parlais, qui va se retrouver dans une usine qui est complètement électrique, va falloir se former sur tous ces sujets hyper rapidement. Le vendeur aussi en concession, avant il vendait un véhicule plutôt qui fonctionnait à l'essence, aujourd'hui il fonctionne de manière électrique, donc je revois aussi toutes les compétences que je dois avoir autour de mon métier. Bref, au-delà de tous ces sujets, on voit qu'il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles il va falloir se former. Et c'est que le début. Je pense qu'on referait le podcast dans 2-3 ans, il y en aura encore plein d'autres.
Et outre les thématiques d'IA, c'est quoi les domaines dans lesquels vous avez vraiment le plus de demandes de la part des entreprises? Est-ce que c'est ces domaines-là justement? Ou est-ce que c'est...
Non, c'est pas ces domaines-là en plus. Pour le coup, c'est plutôt nous qui sommes proactifs en disant, ah, tiens, formez vos salariés, acculturez-les au moins pour qu'ils comprennent ce que c'est. Pareil, ChatGPT, ça parle un écosystème quand même. Hein. Alors, pas que les startups, mais l'écosystème tech,
digital, ou très
voilà. Ouais. ChatGPT, on en parle. Moi, j'en parle à ma grand-mère. Elle sait pas ce que c'est.
Ouais,
elle
ne saura jamais.
C'est qu'en fait, je rencontre énormément de gens qui voient ce que c'est, mais qui ne l'ont jamais utilisé. Et en fait, ils le disent pas qu'ils l'ont jamais utilisé. Mais quand tu creuses, tu te rends compte qu'en fait, ils l'ont jamais utilisé.
Ouais, ben on en voit plein aussi, et même enfin proche de moi aussi, quand j'en parle à des amis, c'est souvent le sujet. Ah, ChatGPT, j'ai lu plein de choses, mais par contre, je sais pas comment ça marche. Alors que c'est assez simple de l'utiliser, de voir la puissance de l'outil. Pour revenir à ta question, du coup, je l'ai oublié.
Ouais, parce que c'est, les domaines sur lesquels vous avez le plus de demandes, ouais. Enfin, en tout cas, les compétences sur lesquelles j'ai le plus de demandes. Des
ouais, les domaines sur lesquels on a le plus de demandes. Donc, ça va pas être l'intelligence artificielle, ça va être beaucoup autour de sujets assez basiques. Le management, la bureautique, donc Excel, par exemple.
Ah, c'est toujours un sujet, hein.
Ouais, Excel est un sujet dans les entreprises. Et après, beaucoup de choses autour des compétences des développeurs. les langages informatiques et autres. Parce que c'est une population qui a l'habitude, en fait, de se former par elle-même. Et du coup, c'est comment le service formation peut lui apporter avant qu'il ait le besoin de cela.
D'accord. OK. Et comment vous arrivez à garder, malgré le panel de format, en tout cas de domaines que vous proposez, quand même d'être pointu sur toutes ces thématiques et d'avoir une vraie expertise, c'est par rapport justement au fait d'utiliser des contenus déjà existants de la part d'experts reconnus.
Exactement, et en fait on a classé on a 7 grands domaines sur Edflex, 230 thématiques. Ouais. Et après on a des experts qui parlent sur des sujets pour former du niveau débutant au niveau expert, donc débutant, intermédiaire, expert, et assez facilement on peut piocher ce qui intéresse le plus quand on est collaborateur. Est-ce qu'on veut s'acculturer sur un sujet ou est-ce qu'on est déjà expert et on veut plutôt monter en compétence sur un sujet de manière très spécifique?
Est-ce que tu as l'impression que ça entraîne une métamorphose de la société où en fait on va avoir des gens qui vont avoir des évolutions professionnelles qui seront beaucoup plus corrélés avec leurs ambitions, leurs motivations, qui font beaucoup plus un job qui leur plaît, parce qu'en fait, ils auront la possibilité d'évoluer en permanence, parce qu'on valorisera ces formations-ci d'une manière différente. Aujourd'hui, tu vois, quand tu postules pour un job traditionnel, tu fais un CV. Dans ton CV, tu mets tes formations, et souvent, ça... Quand tu reçois un CV, un des premiers trucs que tu regardes, c'est « Ok, quelle école il a fait? Quelle formation il a fait ?» Et avant de regarder les postes, je sais pas toi comment tu regardes, mais souvent, tu regardes
ouais,
ça.
Moi, il y a une question. Ouais.
Vas-y.
Ouais, moi, il y a une question que j'aime bien poser, c'est, je regarde forcément, comme tout le monde, le diplôme, les formations. Je dis, c'était quoi la dernière formation que t'as fait?
Ah, ok. Mais ça, tu vois, il y a assez peu de gens qui le font. Et souvent, si, dans le CV, il a pas fait telle formation, et qu'on se dit, il correspond pas au poste, ça dégage.
Ouais, c'est exactement ça.
Mais quand on traite des CV, en vrai, c'est ça, hein, c'est je prends ou ça dégage.
Ça peut faire une différence, les CV qui sont très ressemblent, enfin, similaires, en fait, 2-3 petites formations en plus, quelqu'un qui cherche et qui est curieux, ça peut clairement...
Ouais, c'est clair. Et en plus, c'est assez facile aujourd'hui de suivre des formations certifiantes. Alors, il y a eu les MOOC, beaucoup les cours en ligne du coup. Mais quand on pose la question, c'est quoi la dernière formation que tu as suivie, la réponse, elle est rapidement analysable. C'est-à-dire que quelqu'un qui se forme tout le temps va dire, bah tiens, ce matin, j'ai écouté tel podcast ou la semaine dernière, j'ai regardé tel conf en ligne. Celui qui se forme pas au quotidien, il va chercher un peu et il va dire quelque chose de très basique. Je me suis formé l'année dernière sur tel sujet. Donc ça, c'est assez significatif de l'envie de se former, d'apprendre et de monter en compétence sur un sujet. Donc pour répondre à ta question, la vraie problématique qu'on va rencontrer dans les années à venir, c'est comment identifier les compétences sur un métier, sachant que le diplôme a de la valeur, mais n'est plus la seule valeur. L'expérience dans une entreprise a de la valeur, mais n'est plus non plus la seule valeur, puisque quelqu'un qui aurait été diplômé d'HEC, qui aurait travaillé 15 ans chez L'Oréal et aurait fini directeur commercial, pourrait se dire que c'est un super profil sur le papier, mais en fait, si pendant 15 ans, il ne s'est pas formé ni aux méthodes managériales, ni à l'intelligence artificielle, ni aux nouvelles méthodes de vente...
Voilà. Putain, bon courage.
ni aux nouvelles méthodes de vente,
mais aux outils.
Voilà, ni aux outils. Qu'est-ce qu'il va faire dans une entreprise? Et il aura beau avoir le meilleur diplôme, le meilleur CV, il sera peut-être le moins bon par rapport à d'autres personnes qui auraient appris par eux-mêmes, qui seraient formées, qui seraient certifiées. Donc c'est, encore une fois, pour être assez concret, je pense que c'est quand même une grande transformation qui est en train d'arriver. On n'en parle pas trop, ni dans les médias, ni de manière générale, mais tout ça va quand même...
Ça fait un peu en sous-marin, mais...
Ouais, ça fait un sous-marin, mais tout ça est en train quand même de transformer le monde du travail de manière générale.
Et c'est quoi ta vision justement de la formation professionnelle sur les 10-15 ans à venir? Est-ce que tu as une opinion sur ce que ça va devenir vraiment? Est-ce que tu penses que tout le monde va se former au quotidien? Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un risque, il y a un métier qui disparaît, c'est le responsable formation.
D'accord.
Et je ne le souhaite pas, en tout cas, parce que je n'ai pas envie de dire pour notre business, ce ne serait pas porteur, parce qu'on a deux interlocuteurs, mais pour moi, dans 10-15 ans, le monde de la formation professionnelle, s'il ne change pas assez rapidement et qu'il ne se met pas en ordre de bataille, il va dans 80% des entreprises disparaître. Et en gros, les DRH se diront qu'on n'a plus besoin d'équipe formation. On a des partenaires, potentiellement Edflex ou d'autres, qui font le job d'un responsable formation. Ça, c'est la vision, on va dire, plutôt pessimiste en se disant, pessimiste en tout cas pour l'entreprise, en se disant, OK, mince, on ne va plus internaliser cette compétence. La vision...
Pour autant, moi, ça me semble positif.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que ça veut dire que ça sera rentré dans les mœurs, que par défaut, tu te dois d'avoir une petite formation continue et qu'en fait, tu n'as pas besoin de Tu vois, t'as pas besoin d'un chef of staff. Un chef of staff, c'est forcément indispensable à partir du moment où t'as du staff et que faut s'en occuper, faut faire en sorte que tout le monde aille bien, que les bureaux soient clean, que tout se passe bien. En plus, il est de plus en plus impliqué dans la gestion RH de vas-y, t'as besoin d'un congé, prends ton congé. Vas-y, là, t'as tous les mardis, t'as besoin de partir à 16h pour récupérer tes gamins, bah tu pars à 16h récupérer tes gamins et je m'occupe du fait que ça passe bien. Bon, ça c'est indispensable parce qu'en fait tu peux pas l'automatiser, ça peut pas devenir un truc par défaut. Mais par contre, ton responsable formation, à un moment, il peut ne plus avoir de taf à partir du moment où tout le monde sait que bah j'ai une question, j'utilise Adflex ou autre, tu vois, Open Classroom ou j'en sais rien, et tu te formes.
Ouais, bah ça c'est la vision telle qu'on peut l'imaginer en effet. Et après, il y a un entre-deux qui, je pense, serait la bonne solution. Donc, la vision optimiste où pour le responsable formation, rien ne bouge. Je ne sais pas si c'est optimiste pour la société, mais c'est optimiste pour le métier du responsable formation. Après, il y a l'entre-deux qui, à mon avis, le fait que, justement, le métier de formateur, de responsable formation va évoluer, comme beaucoup de métiers. Et en fait, il sera plutôt là, le responsable formation, pour trouver les bons outils, administrer la formation, on va dire relever les compteurs, c'est-à-dire se dire, OK, qui s'est formé, les mettre dans les outils, OK, super. Paul s'est formé tant d'heures sur tel sujet et donc on pourrait lui proposer tel job aidé par des outils qui diraient tiens il y a tel job d'ouvert dans la boîte, il a développé telle et telle compétence en suivant telle et telle formation et son manager dit ça de lui. Aidé par les outils, responsable formation pourrait être plutôt un conseiller formation, un conseiller d'orientation entre guillemets. Nous on est convaincus de ça et c'est ce qu'on dit aux responsables formation qu'on rencontre ou lors de conférences. Ou moi j'ai quand même une conférence que j'ai animée il y a un an et donc je parlais de tous ces sujets avec devant des directeurs de formation. Il y a le directeur de formation d'un grand groupe qui s'est levé, qui m'a posé une question à la fin et qui m'a dit je vais me faire l'avocat du diable, mais vous êtes en train de nous dire que les 100 personnes ici dans cette salle n'auront plus de travail dans 5 ans. Est-ce que vous confirmez? Et donc la question a fait sourire, a amené du débat, mais a été une vraie réflexion. Et c'est là où, en discutant, en échangeant, tout le monde s'est dit, mais ouais, en fait, notre métier va évoluer, on est en train de s'en rendre compte. Il faut, nous aussi, qu'on développe des compétences différentes. Et oui, le salarié, demain, il ira se former de plus en plus par lui-même. Donc, mettons-lui à disposition les bons outils et soyons différents dans notre quotidien de travail et notamment dans la façon de former les salariés.
Toujours cette logique de mutation plutôt que de remplacement dans la tech. C'est vrai que...
Ouais, c'est pas bullshit. Enfin, pour le coup... Je pense que votre podcast, le but, c'est d'être assez transparent. Enfin, je le pense sincèrement. Enfin, c'est pas du bullshit de dire on va remplacer, on va faire évoluer certains jobs et pas les remplacer. Et par contre, oui, il y aura des jobs qui vont disparaître, clairement. Et dans le monde de la formation aussi, il y aura des jobs qui vont disparaître pour en voir d'autres nouveaux créés. La destruction créatrice, Schumpeter, je crois.
Et, exactement.
Voilà.
Ouais, qui fait partie du jeu de la tech.
Et qui, ouais, voilà, ça veut dire qu'en effet, il y aura peut-être moins de services formation, moins d'emplois dans les grandes entreprises, mais plus d'emplois dans les entreprises plus petites, des startups, des scale-up, comme Netflix ou autres. Et donc, voilà, c'est des nouveaux métiers qui se créent au service de tout le monde, et c'est, je pense, plutôt pas mal.
Est-ce qu'il y a des aspects, des bénéfices, des points qu'on n'a pas mentionnés autour de cette formation continue et que tu voulais évoquer?
Non, mais par contre, j'ai une question pour vous. Quelle formation vous avez suivie récemment et comment vous voyez les choses sur la formation continue?
C'est
quoi votre vision?
Moi, j'ai une réponse qui est où j'ai l'impression de botter en touche. C'est que tout à l'heure, je disais à Paul avant que tu arrives, c'est cool, hein, je fais 6 certificats par jour et fin de semaine, j'ai le cerveau qui fume. Parce qu'en fait, on enregistre des épisodes tous les jours et que chaque épisode est une formation en soi, parce que chaque épisode qu'on traite, celui-ci, c'est un des moins hard pour moi, tu vois. Mais quand, tu vois, on est sur faire du solaire photovoltaïque, faire des DAO...
Vous apprenez tous les jours.
Ah ouais. Ouais,
ça va être une vraie chance.
À chaque fois que j'arrive, je suis largué, je nage.
On est au contact d'experts.
Et quand je sors, je marche sur l'eau. Et c'est trop cool. Et comment moi je vois les choses évoluer? Moi je vois les choses évoluer où en fait, j'adorerais avoir une plateforme qui est intégrée à mes outils de travail, un peu comme Aircall, tu vois, qui se plug à tous tes outils de travaux pour tes communications. Donc un truc qui est plugué, par exemple, à Slack, Teams et tout, avec un channel automatisé qui me pop des formations en fonction de ce que j'ai regardé dans le passé, des tendances sociétales. Type, par exemple, tu vois que un nouvel outil, une nouvelle IA va sortir pour le marketing. Moi, je fais du marketing, donc tu vas dans le channel va popper, tiens, tel outil est en train de sortir. Si jamais tu veux te former et savoir un peu comment ça fonctionne et tout, ça va devenir un rêve dans le marketing. Donc, regarde ça, tu vois. Un truc où, en fait, j'ai de l'info qui vient gratos. Bah, pour moi, gratos, parce que c'est la boîte qui paye. Ou qui me permet de me former au quotidien de manière hyper ludique et qui correspond à ma manière de me former. Par exemple, tu vois, moi, je déteste lire pour me former. Je lis que des trucs, des romans, des machins, des trucs qui m'emmènent ailleurs, mais pas des formations. Et par contre, j'adore les écouter. Et donc, soit du podcast, soit de la vidéo. Et donc, tu vois, un truc qui me pousse uniquement des vidéos et des podcasts sur mes verticales qui me plaisent, tout en ayant des fois des trucs un peu différents, qui me disent, bah voilà, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Ou, tu vois, la finance perso, ça me fait kiffer. J'aimerais bien aussi avoir deux, trois trucs, tiens, sur la finance perso. Voilà.
Pour ma part, à la fois différent et similaire, je fais partie de ces gens qui a l'impression justement que l'absence de formation, c'est une forme de mort un peu, je sais pas, enfin, c'est très philosophique, mais j'ai vraiment l'impression que ne pas se former dans le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment passer à côté de quelque chose, que ce soit au niveau professionnel et personnel, dans le sens où tout va tellement vite que c'est à la fois une obligation envers soi-même et une forme d'épanouissement que de se former au quotidien. En tant que Gen Z, je suis quand même très YouTube, j'aime beaucoup la vidéo ou le format audio type podcast. Je pense qu'il y a plein de manières vraiment sympas de se former. Et je pense et j'espère que la formation peut aussi passer par une forme de divertissement, ou en tout cas par le fait de passer un bon moment, qu'on peut sortir un peu aussi du cadre très scolaire, de se dire il faut que je passe 2 heures sur un banc à écouter des sujets qui sont pas forcément racontés de manière très engageante. Et j'espère que justement le fait de que les gens puissent apprendre aussi à apprendre à apprendre et à apprendre sous forme d'histoire, à storyteller les choses pourrait aider à avoir un meilleur accès à tout ce contenu-là. Et pour terminer là-dessus, je pense aussi qu'une des meilleures manières d'apprendre, c'est aussi de faire. Et pour ça, je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes est ouvert à tous. Pas forcément monter une billions, mais je veux dire, déjà, créer une petite association ou faire son petit projet ou faire de l'art, etc. Et je pense qu'en combinant tout ça, d'ici avec tous les outils qu'on a à disposition dans notre quotidien, j'espère que dans quelques années, toutes les portes seront ouvertes à tout le monde, quoi.
Ouais, bah, c'est hyper inspirant, en tout cas, merci pour répondre. Peut-être qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est la partie formation tout au long de la vie aussi pour des populations plus en difficulté à l'international. Pourquoi je vous parle de ça?
Parce que
c'est aussi un sujet qu'on traite chez Edflex, c'est-à-dire qu'on a une mission globale qui est d'accompagner ce que nous on appelle l'open education. Donc c'est promouvoir cette open education, promouvoir les bons contenus et promouvoir une formation plus ouverte, plus accessible avec toujours plus de contenu à dispo. On a déjà beaucoup aujourd'hui et on a une histoire assez intéressante et que j'adore raconter. C'est que en fait on a un utilisateur sur une de nos solutions qui est basée à Haïti. Voilà, on connaît la situation à Haïti, notamment là dernièrement, c'est très compliqué. Et en fait cet utilisateur, il avait très peu de moyens, il a pas pu aller suivre les formations qu'il souhaitait à l'école parce que ça coûte assez cher là-bas. Et il s'est formé sur Edflex. Et il s'est formé avec plein de cours en ligne. En tout cas, on lui a donné l'envie d'apprendre. Il travaille dans une banque à Haïti. Et on lui a donné l'envie d'apprendre. Et maintenant, il communique beaucoup sur les réseaux. Il s'appelle Amos Daniel Michel, si les curieux veulent aller voir. Et il a suivi en 2021, si je ne me trompe pas d'année, 100 MOOC, 100 cours en ligne. Il a eu 100 certifs et on avait calculé, ça représentait 35 jours de formation. Il s'est formé à peu près sur tous les sujets. De la compta à l'astrologie, en passant par tout un tas de sujets. Plus ou moins professionnels. Mais en tout cas, il a développé des compétences grâce à Internet, au-delà d'Edflex. Et ça, c'est une conviction aussi assez forte qu'on a, c'est que la formation aujourd'hui, grâce à Internet, grâce au fait qu'il y ait plein de producteurs, d'éditeurs de contenu, elle est ouverte à tous et on peut rêver de plein de choses,
sans
de
frontières.
Nouveaux métiers, de créer des boîtes, de se reconvertir, de se former sur n'importe quel sujet, juste avec une connexion Internet. Et ça, c'est quand même assez inspirant. On parlait de révolution tout à l'heure, il y a l'IA, il y a Internet, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on a tous accès à de la formation, peu importe le pays dans lequel on se trouve.
C'est vrai que c'est un outil d'inclusion qui est exceptionnel quand même, mine de rien. C'est peut-être
et après, il faut le promouvoir. Là, on a en parallèle de nos activités très professionnelles, on mène des actions plutôt un caractère associatif, une asso là sur l'open education où notre objectif, c'est de fédérer des acteurs, que ce soit des associations pour l'insertion, pour la réinsertion On peut penser aux prisonniers, les sorties de prison, où la formation peut les aider, des outils et des associations peuvent les aider à se former sur des sujets, des nouveaux métiers, là où l'État, parfois, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas forcément très à jour sur les sujets ou très à la pointe des formations ou des nouveaux métiers. Des acteurs plutôt privés ou associatifs essaient de faire ça. Donc, nous, on essaie de le faire avec l'Open Education. Et c'est quelque chose qu'on veut développer. On a de plus en plus d'acteurs, et même des entreprises privées, des fondations et autres qui rejoignent le mouvement pour une éducation plus ouverte partout dans le monde.
Bah écoute, merci beaucoup Clément. Pour arriver sur la fin de cet épisode, là, on a parlé d'éducation et de formation. C'est un sujet qui est éminemment sociétal et qui influence le quotidien de tout et un chacun. Est-ce qu'il y a des grandes questions que tu te poses justement sur des mouvements sociétaux, des
philosophiques, scientifiques?
Des questions que je me pose alors. Attendez, j'y réfléchis une petite.
Ou des grandes thématiques qui t'intriguent, qui te font réfléchir, du même style que l'éducation.
Vous avez quelques exemples?
Bah, par exemple, on a des gens qui nous partagent leur cheval de bataille, qui est par exemple justement la transition énergétique, d'autres qui nous disent que...
L'insertion professionnelle,
ouais,
le...
On parle pas assez du financement de certaines entreprises, qui... on a un peu de tout.
Non, bah, c'est pas très original, mais ouais, là, au-delà de la formation, l'insertion par la formation et la réinsertion, moi j'y crois vraiment à fond. Je pense qu'aujourd'hui, et on le voit, les personnes qui se sentent plus dans la même société que certains, en tout cas les clivages qu'il peut y avoir, sans rentrer dans un débat politique, la façon de les faire revenir dans une société et une vision commune, c'est la formation, l'éducation, et c'est le meilleur moyen de s'intégrer quand on est formé et quand on a développé des compétences. Donc, voilà, à travers l'assaut là dont je vous ai parlé, je pense que c'est à titre perso plutôt le combat sociétal que
et justement,
je partage.
Toi qui es dans le milieu de l'éducation et de la formation ligne au quotidien, est-ce que tu te demandes à quoi ressemblera l'école dans 50 ans, 20 ans, 30
ouais.
ans?
Ouais. Et je pense que les profs ne seront pas remplacés par des robots, mais
ouais.
On revient toujours à la mutation. Et les profs seront aidés par l'intelligence artificielle, mais ouais, c'est... Alors moi, j'y pense assez souvent. Alors, j'ai pas d'enfant, pas encore d'enfant, mais en tout cas, je me dis que ce sera pas du tout comme ce que j'ai connu, pas du tout,
certainement, ouais.
Pas du tout comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est qu'en fait, on ne sait pas du tout de quoi sera fait le monde de demain. Est-ce qu'il sera mieux, moins bien? Voilà. En tout cas, c'est passionnant, différent. Voilà.
Toi qui te formes tous les jours, comment tu t'informes et quelle est la dernière formation que tu as suivie? Pour te retourner la question que tu nous as posée.
Très bonne question. Moi, je m'informe beaucoup avec Twitter. J'ai fait ma propre curation, sélection de journalistes sportifs. Et donc, du coup, Twitter pour m'informer, Twitter pour suivre l'actu. Si tu parlais de finances perso, moi, j'adore aussi suivre ces sujets. Bah, je suis des influenceurs sur ces sujets, la bourse, etc. Donc, bref, Twitter pour m'informer. La dernière formation... C'est un podcast que j'ai écouté et c'est un podcast du CEO de Partout, qui est une scale-up, Thibaut Renouf, qui expliquait, qui a sorti un bouquin qui s'appelle Start to Scale. Et lui, il passait de 0 à 400 collaborateurs, donc il explique les différentes phases. Nous, aujourd'hui, on est 70, on espère être 120 l'année prochaine et on l'espère peut-être plus à terme. Et du coup, il passait dans un podcast que j'ai écouté il y a 3 jours.
C'était quel podcast pour cette curiosité?
Le nom du podcast, c'était, je ne l'ai plus.
Un ami podcasteur, est-ce que c'est Thibaut Fourcade? Je crois qu'il l'a interviewé il n'y a pas longtemps.
Non, c'était... Alors, j'écoute beaucoup Tech 45, mais ce n'est pas Tech 45. Bah, vous pourrez le remettre en commentaire, je ne l'ai plus. Voilà, en tout cas, c'était la façon de scaler. Ça dure une petite heure et demie et c'était hyper intéressant.
Ok, bah, très cool. Écoute, merci beaucoup Clément pour cet épisode.
Merci beaucoup.
Merci à tous nos auditeurs et puis à très vite, à la semaine prochaine pour un futur épisode. Au revoir.
Merci à tous les deux.
À bientôt.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.